Bienvenue à la French Connection, épisode 105. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Et avec Steve.
Bon après-midi à tous.
Commençons avec les Shem Les Plug. Cette fois-ci, nous avons trois événements à mettre de l'avant. Le 23 mai, une suite, la My Experience in Hacking Video Games, la suite d'une première partie qui avait été présentée déjà au Québec SEC. Deuxième événement, le 30 mai, Aaron on the Road à Montréal, qui est organisé, entre autres, par Steve. Et finalement, le 31 mai, la SIC présente Faille de sécurité des composants physiques de sécurité des systèmes gouvernementaux, retour sur les codes de processeurs Intel AMD, qui sera également présenté par Steve. Commençons par, on va en parler d'Arin, on va commencer le fait qu'Arin a récupéré un certain nombre d'adresses qui étaient revendues.
Oui, exactement. Il y en a qui se sont voulu d'être créatifs, comme on dit, pour être capable à ce moment-là de pouvoir distribuer, même dilapider des adresses IP qui étaient en utilisation, donc qui appartenaient déjà à des organisations. Et donc, ils ont tout simplement approché certaines organisations en disant « Hey, nous autres, on a des adresses à te vendre pas cher. Tu sais, ils vendent à ça 12$ l'adresse. » Qui est pas mal le prix sur le marché noir lorsqu'on veut revendre un plan d'adressage IP. Et de ceux-là, ils ont été un petit peu plus haut même de parfois, qui étaient environ à 19$ l'adresse, des choses comme ça. Des classes B au complet, même si c'était des package D qu'ils le vendaient, par quoi. Fait que Larin s'est rendu compte de ça, puis ils ont fait des enquêtes et pour déterminer qui cette compagnie-là qui s'appelle Micfo. Ils ont amené en justice pour être capable de lui dire « Hey, illégalement, vous vendez des adresses IP, puis ça a fait du tort, justement, à certaines organisations. Ça a été principalement, vu qu'Aaron est en charge et responsable de distribution des adresses IP en Amérique du Nord, c'est un événement, c'est plutôt un crime qui a été commis en Amérique du Nord, qui a déstabilisé certaines organisations, mais surtout aux États-Unis principalement, alors que cette compagnie-là, Micfo, était originaire de Caroline du Sud. Fait que, autrement dit, quand c'est trop beau pour être vrai, pour avoir des ressources à bon marché, ben, c'est probablement pas vrai que c'est accessible comme ça. Il faut double-checker qu'est-ce qu'on se fait soumettre.
Effectivement, puis on va s'enchaîner avec une autre nouvelle qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. WhatsApp a été pointé du doigt comme étant vulnérable encore une fois.
Et oui, WhatsApp, fantastique application utilisée par près de 2 milliards de personnes sur la planète. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et vous me direz ce que vous en pensez, les gars. La vulnérabilité, deux failles, en fait, qui ont été détectées déjà par le Google Zero Project. Et ces deux failles-là, au mois de décembre dernier, il y a un rapport qui est sorti disant, ben voici, on suspecte qu'il y a potentiellement du méfait à faire avec ces deux vulnérabilités-là. Mais eux autres, ils voyaient pas plus de moyens de l'exploiter. Mais ils ont laissé le rapport flotter comme ça, devant porter attention, peut-être qu'il pourrait être exploitable, sinon tout est fonctionnel et ils ne voient pas rien de bizarre. Or, là, on se rend compte que ces deux vulnérabilités-là ont été exploitées par la compagnie NSO Group d'Israël, qui sont les fameux concepteurs du logiciel Pegasus. Et Pegasus est utilisé avec par pas moins de 35 organisations dans 45 pays du monde. Et on parle d'organisation vraiment gouvernementale. Le logiciel Pegasus, c'est l'ultime logiciel d'espionnage sur les appareils mobiles. Et il a comme pour effet de s'insérer et d'être vraiment quasi indétectable. Récemment, il y a des gros cas qui ont venu à la surface, dont exemple M. Khashoggi, là, qui a été pris par l'Arabie Saoudite, mais qui a été capable d'être traqué par son repérage GPS, mais ça a été fait avec le logiciel Pegasus, entre autres. Le Mexique s'en prend beaucoup envers ces journalistes qui critiquent le gouvernement mexicain. Et c'est d'ailleurs un avocat qui conseille présentement 5 journalistes mexicains dans une accusation, plutôt des accusations qui sont portées envers le NSO Group. Et par le fait même, NSO Group en voulait savoir davantage sur peut-être les pratiques et les façons de faire de cet avocat-là. En lui insérant, puis c'est ça qui est intéressant de la faille, un faux appel à WhatsApp. Et WhatsApp, par les paquets qui étaient à ce moment-là arrangés de s'insérer, une fois qu'il a fait le handshake, excusez le terme technique, avec le téléphone, a pu à ce moment-là insérer le logiciel Pegasus sans même que le destinataire réponde et très subtilement était capable de s'installer sur le téléphone pour avoir accès, évidemment, à toute la panoplie d'informations qu'on peut avoir sur le téléphone, les contacts, les SMS, les appels, évidemment, les textos, j'ai dit les SMS, les courriels, et évidemment, activer la caméra et ou le microphone en même temps. Donc, très invasif. Tout ça, encore une fois, pour obtenir un avantage sur ce personnage-là. Et c'est qu'est-ce qui, en sorte, corrobore que ce que j'apporte comme ce que le produit Zéro a fait juste avant. Ben, la patch était disponible quasi instantanément. WhatsApp avait ça stand-by. Ils ont pu mettre ça à distribution immédiatement. Et depuis dimanche dernier, c'était facile de pouvoir se mettre la main là-dessus. Donc, on parle de dimanche le 13 mai plutôt. Si vous voulez vous protéger, correctement vous en sortir et vous assurer que cette vulnérabilité-là ne peut pas travailler contre vous, assurez-vous de désinstaller WhatsApp de soit iOS ou Android et réinstaller la nouvelle version de cette application-là. Comme ça, vous allez être certain d'en profiter pleinement de l'application pour être capable de parler sur les internets.
Perso, moi, ça fait des années que je m'en sers plus parce que j'ai un peu perdu confiance en Facebook sur la protection de mes informations. Fait que c'est même s'ils clament le fait que c'est protégé, j'ai toujours un doute de ça. Puis de toute façon, les derniers événements qui ont accablé Facebook, les derniers scandales, démontrent clairement que la revente et le fait de voir l'information fait partie de leur modèle d'affaires. Donc, c'est un peu contradictoire qu'ils ne l'y regardent pas.
Tout à fait.
Passons à la nouvelle suivante, celle-là avec des implications majeures, avec Cisco qui, encore une fois, a un bug sur ses équipements qui a des implications énormes sur toute notre infrastructure télécom mondiale.
Incroyable nouvelle cette semaine. Là, je veux dire, plusieurs équipements, mais dont les routeurs qui supportent encore là, pas en majorité, oui, on peut le dire encore une fois, les différents réseaux à travers le monde ont fait en sorte qu'il y a des vulnérabilités majeures qui ont été décelées dans ces routeurs-là qui donnent accès à ce moment-là en arrière-plan pour être capable de gagner administrativement accès à l'appareil et de faire des modifications. Donc, Cisco est dans une position présentement que depuis, je dis encore le gars, corrigez-moi si je suis pas correct, mais depuis 2 ans, ce grand manufacturier-là, ça va pas bien. Parce qu'ils trouvent systématiquement des multiples vulnérabilités. Encore là, c'est-tu parce qu'ils ont engagé les bons gars maintenant et ils font les bonnes détections? C'est-tu parce que là, les codeurs en arrière qui développent les iOS sont rendus qu'ils font de la cochonnerie tellement que la compétition est rendue féroce? Ou bien c'est vraiment parce que la façon que l'Internet se comporte présentement, ça fait en sorte qu'on est. Avant ça, c'était pas exploitable, maintenant c'est exploitable, fait que là, ils ressortent pour ne pas se faire poursuivre. Moi, c'est ça qui me mystifie parce que quand même, ça fait de bon nombre d'années que je travaille avec Cisco, j'en installe, je suis instructeur Cisco et je suis débouté de voir à quel point il y a beaucoup de correctifs. Encore là, c'est une bonne nouvelle, ils détectent, ils corrigent, mais cependant, quand c'est rendu que tu as plus souvent d'annonces de correctifs que tu en as d'amélioration de produits, ça dénote tant qu'à moi un problème de conception. Je ne sais pas que vous en parlez, que vous en pensez, Vincent et Nicolas.
Ben oui. Je suis d'accord avec toi. Yann, je suis moins dans ce monde-là, je vais t'avouer, là. Je suis plus un utilisateur, point, puis mon objectif, c'est que ça fonctionne. Mais écoute, je sais pas, je connais pas leur position sur le marché. Est-ce qu'il faut qu'ils se grouillent à sortir des produits? Est-ce qu'il y a des compétiteurs? Est-ce qu'il y a des gros équipementiers qui sont plus agressifs? Écoute, je suis pas dans les sphères de décision d'affaires. C'est des grosses décisions stratégiques, mais je pense à la part de tous dans ce dossier-là. Là, moi, je veux pas, je me fais pas l'avocat du diable, je prétends pas savoir quoi que ce soit, mais Cisco qui a l'habitude de produire des OS, des fonctionnalités robustes, puis tout d'un coup, comme tu viens de dire, Steve, tu as plus d'annonces de correctifs à cause de problématiques, je sais pas, là... Je suis un peu embêté.
Moi, je le regarde comme le IoT, c'est-à-dire que ces équipements qui sont tellement présents partout et à partir de l'univers de télécoms que l'application des 10 correctifs est virtuellement impossible d'atteindre 100%. Et il y a tellement de compagnies qui ne sont pas au courant, ou il y a tellement de compagnies qui s'en foutent un peu jusqu'à un certain point. C'est un problème assez majeur, c'est un problème d'infrastructure à ce point-là. C'est comme si d'apprendre que nos routes étaient mal construites. Au Québec, c'est malheureusement un constat qu'on fait à chaque printemps, mais on arrive au fait que c'est un peu ce genre de choses-là. C'est comme si on avait oublié de visser des bottes sur le pont, puis on se rend compte, puis on oublie de corriger sur le dit pont.
Oh, mais là, quand même, Nick, c'est des choses fondamentales. Le Secure Boot Hardware Tampering Vulnerability, c'est quand même à la base du système d'exploitation. Ensuite, Cisco Prime Infrastructure, qui était à la base de faire d'authentification, vulnérable pour faire du Remote Code Execution. C'est quand même pas banal, ça, comme vulnérabilité. Et après ça, un paquet d'autres là, qui est pour des injections SQL. Cisco Prime, encore là, Infrastructure, c'est pour faire de l'authentification puis s'assurer que quelqu'un sécuritairement rentre sur le réseau. Mais il est vulnérable à du SQL injection. Puis SQL injection, tant qu'à moi, messieurs, il me semble que ça fait longtemps qu'on connaisse cette vulnérabilité-là. Fait qu'il y a du contrôle de qualité, moi, je détecte là-dedans, là, qui est absent, ou du moins qui est mal fait, parce que c'est quand même des produits phares, autrement dit des flag products, et que moi, je verrais facilement que ça soit abject de toute vulnérabilité. C'est pour ça que ma grande mystification, comment se fait qu'ils ont manqué le coup là-dessus, parce que entre le 16 au mai au... je vais juste aller chercher l'autre date, là. Donc, on est quelle date aujourd'hui? Donc, de jeudi jusqu'à mercredi, il n'y a pas moins de... T'en as un peu. Ça, c'est 20, ça fait 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46 vulnérabilités qui ont été annoncées pour différents produits, que ce soit du firewall, du NXOS, donc du Nexus, des small business, je veux dire, toute la flotte de produits y passe. Fait que c'est pour ça que moi, je vois ça global, puis... Ça me mystifie, là, honnêtement. Alors, d'accord, je vais arrêter de me répéter. Mais c'est juste pour dire que peu importe la grosseur de manufacturier, ils sont à risque, eux autres aussi. Et donc, soyez avisés de suivre étroitement les correctifs proposés, parce que c'est pas juste les gouvernements qui doivent vous aviser que prenez soin de prendre connaissance de qu'est-ce qu'est le manufacturier, de répondre à ça. Et pour te répondre à ta question, Nick, oui, c'est Vincent, excuse-moi, la compétition est forte. Je veux dire, Juniper prend de l'espace, puis d'autres compétiteurs sur le marché. Ça fait en sorte qu'ils sont en mesure de vouloir vous apporter, oui, une bonne diversité, mais ça veut-tu dire que les autres sont moins bons? Encore là, on peut débattre de ça là, toute la journée, mais soyons vigilants là-dessus, messieurs, puis patchons régulièrement et de façon appropriée pour être capable de protéger l'infrastructure.
Est-ce que tu parles, là on vient de parler de Cisco et sa sellette, la compétition. La compétition, est-ce qu'ils sont aussi sur la sellette ou je pose la question à tout hasard là, parce que souvent dans les articles, on aime ça bâcher sur le leader parce que là ça va mal, puis tout d'un coup on a envie de permettez-moi l'expression là, d'y sa tête. Mais des fois on aime ça faire des comparatifs pour faire des mises en contexte avec des compétiteurs. Est-ce qu'il y a des compétiteurs à Cisco qui sont aussi cités là-dedans, mais aussi les vulnérabilités sont moins dramatiques?
Ben, je te dirais, Vincent, je regarde de beaucoup qu'est-ce qui émerge du DHS américain puis du Centre de cybersécurité du Canada. Oui, le grand manufacturier va être un peu plus épluché, je suis d'accord avec toi, puis ça, c'est un réflexe normal. Pareil, comme on dit, Microsoft sont toujours... Mais là, on peut prouver aussi, Microsoft, que ça va pas bien l'histoire. Mais fondamentalement, les autres, on les voit pas. Fait que c'est là que j'amène le scénario que soit qu'ils sont pas observés de la même façon, ce que je ne crois pas, parce que quand même, des gens qui dépendent des mêmes infrastructures avec les autres manufacturiers aussi. Puis après ça, ben, ils ont juste des techniques différentes de production. C'est là que ça serait à vérifier, mais ce serait une belle étude à faire.
Regardez, je sais qu'au niveau des telcos, Juniper est très présent. Mais tant qu'à embarquer dans cet univers-là, Vincent, tu fais référence à une nouvelle de Huawei qui est avec Vodafone en Europe. C'est tant qu'à parler de télécom.
Oui, ben écoutez, c'est l'opérateur de télécom britannique qui a découvert des fonctions cachées dans ses équipements qui proviennent de Huawei, justement. Il y a des failles de sécurité qui permettent à l'équipementier Huawei de, justement... s'authentifier puis de se promouvoir. Moi, j'aime pas ça appeler ça administrateur de la machine. J'aime ça appeler ça dictateur de la machine. Et puis, c'est des informations qui datent de 2009 à 2011. Et quand Vodafone a trouvé ça dernièrement, Huawei a eu une collaboration, on va dire exemplaire, pour justement arriver à corriger la situation. Mais il était déjà au courant. Il n'avait pas proposé justement entre-temps, il n'avait pas fait de proposition, il n'a pas fait d'annonce, il n'a pas fait de divulgation. Ils ont attendu que la nouvelle sorte. Puis c'est surtout en plus, dans un contexte, au Royaume-Uni, c'est un opérateur britannique de télécom. où justement la première ministre a décrété « OK, go, on y va avec l'équipementier Huawei pour le 5G ». Et puis là, tout d'un coup, cette information-là sort. Il y a eu quelques fuites de données. Donc, la pauvre première ministre, qui malheureusement, bon, ben, ces derniers jours sont comptés avec justement ces nouvelles propositions pour le Brexit qui verront pas le jour probablement. Alors, je pense que le Vodafone est un petit peu, prend des douteuses décisions présentement. Et puis, Huawei a toujours le beau jeu parce que c'est eux autres qui viennent d'avoir le contrat. Qu'est-ce que ça va être la suite? On ne sait pas.
Mais Huawei, c'est un problème très complexe. Puis en réponse à ça, j'allais dire Deutsch, la Hollande, les Pays-Bas ont aussi un rapport en ce sens-là, Steve.
Oui, effectivement, Nick, ça rejoint ce que Vincent dit étroitement parce que les services de renseignement hollandais ont été en mesure de confirmer qu'il y avait l'installation systématique de ce qu'on appelle dans le jargon des backdoors sur des équipements de télécom et encore une fois, de façon innocente, ils disent « Ah, ben là, c'est pas nous autres ». Puis, ben, tu sais, quand je dis ça rejoint, c'est vraiment Vodafone, Ziggo, T-Mobile, Tele2 puis KPN qui sont directement impliqués par ces backdoors. Et ça rejoint ce que j'amène et que je prône comme message de ne pas faire confiance à cette organisation-là qui est Huawei parce qu'ils ont cette philosophie-là, encore une fois, par commande du gouvernement chinois, puis j'ai pas de misère à le déclarer comme ça, de pouvoir à ce moment-là donner des moyens faciles aux services de renseignement étrangers chinois de rentrer dans les réseaux télécom. Et dans ce cas-ci, on a un autre exemple avec la Hollande. L'État du Canada, par rapport à ça, c'est encore une fois le statu quo, pareil comme l'Angleterre. L'Angleterre s'est avancée, puis c'est pour ça que la ministre Theresa May a sacré dehors son ministre de la Défense, parce que le ministre de la Défense, lui-ci, n'est pas d'accord au fait qu'il faudrait faire entrer Huawei partout. Fait que le ministre de la Défense, il a fait couler de l'information dans la presse il y a quelques semaines, citant comme quoi que le gouvernement anglais était pour faire moitié-moitié, autrement dit, les équipements de cœur du réseau cellulaire ne seront pas sous Huawei, la responsabilité de Huawei, mais bien un autre manufacturier, alors que Huawei serait peut-être dans d'autres aspects, en tout cas, juste pour faire plaisir à tout le monde. Puis Mme May n'a pas aimé ça. Bye, le ministre de la Défense. Mais au Canada, on est encore en limbo. Et moi, ma prédiction, c'est qu'on n'entendra pas parler de ce dossier-là avant la fin novembre, autrement dit, mais qu'on ait fait l'élection et qu'il y aura une nouvelle tête dans ce pays-là, ou du moins que le pays va reprendre une tête pour être capable de diriger ses activités politiques. Tout ceci dit, au pays, cette semaine, donc dans la semaine du 14 mai, on a reçu le Canada une lettre, et l'Angleterre aussi l'a reçu cette lettre-là de Huawei, citant que Huawei promet avec cette lettre-là de ne pas se mener à des activités d'espionnage avec ses équipements sur les réseaux de notre beau pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, comme crédibilité d'une telle lettre pour Huawei, mais avec les exemples que Vincent et moi, on vient de citer, je crois qu'on peut en douter fortement.
Bon, on a un doute raisonnable sur les intentions réelles, mais de toute façon, on est dans un univers de cyber-espionnage, donc c'est de plus en plus difficile de croire que ces géants nationaux-là ne protègent pas leurs intérêts nationaux. Et on reprend, de toute façon, on le sait, regarder les Américains ont longtemps protégé leurs intérêts avec leurs multinationales. Donc, est-ce que la Chine est en... C'est ça.
Oui, exact.
Est-ce que l'équipementier principal aux États-Unis, c'est qui? C'est qui est en course pour le 5G? Est-ce que j'imagine qu'il y a Huawei dans le décor?
Bien, aux États-Unis, non, parce que le président Trump a signé une ordre d'exécutif cette semaine. Encore là, dans la semaine du 14 mai, citant de protéger l'infrastructure de télécom aux États-Unis et ça met la table pour enlever Huawei de l'équation. Fait qu'il reste à ce moment-là Ericsson, Nokia et Samsung qui sont les manufacturiers principaux de matériel de télécom dans la transmission cellulaire. Mais dans la course du 5G, c'est les joueurs principaux. Et il faut pas oublier une affaire, dans l'architecture 5G, ça apporte, oui, les transmetteurs sans fil pour être capable de diffuser l'information à l'extérieur, mais c'est d'intégration directe avec tout ce qui est switch routeur pour être capable de diffuser l'information à l'intérieur et entre ces cellules-là. Fait que oui, souvent, il y en a qui vont voir un package deal, autrement dit, amener tout le même manufacturier pour l'antenne de transmission extérieure et en même temps l'échange réseau, mais il y a moyen d'arrimer, comme c'est présentement le cas avec les 4G LTE, un transmetteur va dire avec le manufacturier d'un autre pour des équipements de transmission et d'échange, c'est-à-dire de data entre les sites. Fait que je crois que ça, c'est un peu ça, là, ça rejoint Vincent là, qui... aux États-Unis, ils sont pas mal pris, mais c'est juste un petit peu plus complexe pour faire arriver tout ça ensemble.
Puis, je sais pas, je trouve que ben, on s'en va vers là. C'est une belle technologie. C'est de la communication. On n'a pas un deal avec les États-Unis. On n'a pas une forme de partenariat ou coopération, justement, pour, je dirais, l'Amérique du Nord. C'est-tu quelque chose qui a été suggéré? Je suis pas dans le secret des dieux. C'est-tu quelque chose qui a été suggéré? Ou du moins, il me semble que ce serait un bon plan pour justement partager cette forme d'infrastructure-là.
Ben, il reste que ça fait partie des discussions pourquoi le Canada n'a pas tout de suite penché à aller chercher du Huawei. Parce que les États-Unis l'ont clairement dit envers l'Allemagne, si vous allez avec Huawei, on vous couvre l'accès à de l'information privilégiée qu'on vous partage avec vous autres. Le Canada se l'est fait dire aussi en arrière-plan, parce qu'on a encore là les partenariats avec le NORAD, évidemment l'échange bilatéral d'informations autant policiers criminels versus que défense, et après ça, avec l'interopérabilité de l'OTAN. Fait que tout ça a été mis dans le pot de discussion, et ça brasse beaucoup, parce que là, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, même le Japon ont dit non, pas de Huawei. En Europe, ça bouillonne parce qu'il y en a des pays une journée, comme l'exemple de la République tchèque, qui ont dit oui, parfait, on bannit Huawei. L'autre journée, ah, ben là, finalement, on va être capable de prendre du Huawei parce que Huawei a une influence majeure. Je veux dire, c'est capotant les moyens qu'ils ont et ils s'arrêtent devant rien. Ils sont prêts à donner leur stock, pas encore là, rentrer dans un pays. Puis les gens vont dire, ben, s'ils sont honnêtes puis ils le déclarent légalement qu'ils espionneront pas, laissez-les faire. Ça va venir après. Puis n'oubliez jamais Nortel. Ça, c'est mon message encore une fois du jour. N'oubliez jamais Nortel parce qu'en Nortel, de 2000 à 2009, le gouvernement chinois s'est allègrement servi dans ce buffet-là et a créé Huawei tel qu'il est aujourd'hui avec en grosse partie la technologie de Nortel. Et pendant ce temps-là, ben, les grands dirigeants de Nortel savouraient le pipe et le cigare et ont fait planter la compagnie. On a perdu notre leading edge technologique au pays par rapport à ça. Et je n'aimerais pas ça que le pays se retrouve dans le fin fond de la cale technologique par rapport juste à ne manquer l'anticipation de cette menace-là technologique et compétitive surtout. Fait que c'est pas juste la paranoïa.
C'est drôle, hein, dans l'histoire du Canada. Tu parles du leading edge, j'aime bien l'expression. Moteur à réaction.
Yep.
La mécanique quantique.
Yep.
Et puis là, tu viens de parler des télécoms.
Voilà. Hey,
trois éléments majeurs pour un pays. Tu fais de tout avec ça, là. Mais bon.
Et je rajouterais, Vincent, biomédical aussi. Combien de recherches fondamentales médicales a percé ici dans le pays, mais que ça s'est évaporé en quelque part, puis qu'on n'a jamais vu la finalité parce que ça a été encore là, la devenue la propriété d'une organisation obscure à quelque part, tu sais.
Ce segment était une présentation d'éléments historiques pour votre bon plaisir.
Et ben, de toute façon, vous n'avez pas parlé du AI dans lequel on est en train de se positionner et probablement qu'on va se faire swapper aussi éventuellement de toute façon. Fait que c'est un peu comment est-ce qui se passe. Tant qu'à parler de cyberespionnage, on va switcher à une autre nouvelle. TeamViewer a été utilisé par les Chinois justement pour arriver justement à leur fin.
À leur fin, parce qu'ils ont faim, et où est-ce qu'il y en a-t-il qui peuvent deviner où est installé TeamViewer? Qui peut bénéficier de TeamViewer? Ben, c'est parce que c'est largement installé partout dans le monde. Pour pas dire qu'on va donner un petit coup de main à un tel puis un tel, c'est quand même assez facile. Donc, les Chinois, ils ont quand même, eux, ils ont toujours des objectifs d'aller se rassasier en termes de vol d'informations. Et dans ce cas-ci, ils voulaient s'attarder vraiment à aller détecter où est ce TeamViewer-là, parce qu'il est transmis quand même sur un réseau lorsqu'il est installé. Et les groupes APT-10 qui sont focusés, eux autres, là, ce groupe de hackers gouvernementalement sponsorisés. APT-10, eux autres, c'est pour les services cloud-based, les providers donc d'infos nuagiques. Et APT-17, qui est un groupe qui est en fait focusé sur les attaques donc de supply chain, qu'on appelle les attaques d'approvisionnement. Ça veut dire que c'est une attaque qui ressemble à NotPetya, c'est-à-dire de s'attaquer à un système de distribution automatisée de patch, et qui, en arrière-plan, va se distribuer de façon très, très rapidement à travers la planète. Donc, d'aller chercher ça à travers TeamViewer, c'est parfait parce que TeamViewer est déjà en place et même souvent automatiquement en fonction. Et s'ils peuvent, ils ont trouvé une façon de pouvoir s'y insérer et de cette manière-là, pouvoir travailler là-dessus en arrière-plan. Présentement, c'est en Allemagne que ça a été détecté comme quoi qu'en 2016, ils ont fait ce genre de travail-là. Oui, TeamViewer ont corrigé la situation, mais encore une fois, ça démontre que la technologie, comme on l'a dit tantôt avec WhatsApp, c'est faillible en tout point et en tout lieu. Donc, si vous n'en servez pas, ben fermez-le, tabarouette, laissez pas ça ouvert, ça donne des portes. Plus que de portes ouvertes, plus ça donne d'opportunités à pouvoir l'exploiter.
Indeed! C'est ce genre de problème qui en tout cas, il faudrait retourner à la base du fait le moindre privilège, mais ça, on est un peu loin de là maintenant. On a tellement nos choses qui marchent tout seul et qui fonctionnent sans heurts.
J'ai une petite anecdote sur le moindre privilège. Là, je pointe personne.
Alors?
J'ai dit personne. Je sais qu'on est écouté par des millions d'auditeurs.
Oui, et merci à vous autres, les auditeurs. Vas-y, Vincent.
Alors, vous savez, le terme moindre privilège, qui sont les meilleurs gestionnaires de risque de tous les temps? Les comptables. Moindre privilège a été inventé par un comptable. J'ai dernièrement utilisé cette expression-là et un comptable m'a regardé béant pour dire « Voyons, il va falloir que tu me mettes une note de votre page. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par moins de triplage. » J'ai bien ri. Mais bon, c'était ma petite parenthèse.
Effectivement. retombons aussi dans les problèmes de vulnérabilité logiciel matériel avec Tesla qui a envoyé un correctif pour ses piles.
Les Tesla Model N et Model S, messieurs, dames, qui conduisent ces modèles-là, soyez avisés. Il y a une mise à jour logicielle qui a été distribuée par Tesla pour empêcher quoi? Ben, que l'auto prend en feu. Il y a deux cas réels qui ont été vécus dans le monde, le dernier à Hong Kong, et où il y a eu une combustion spontanée du véhicule automobile qui s'est fait. Excusez, je ris, mais c'est pas drôle. C'est dangereux, enceint, s'il vous plaît, là, maintenant là, que le véhicule automobile est vraiment rendu dépendant d'un logiciel, au même titre que les Boeing 737 Max, là, ils vont reprendre du service la semaine prochaine, donc dans la semaine du passé, l'action de gaz, donc dans la semaine du 20 mai. Et tout ça par rapport à un logiciel qui anticipait mal la compensation dans le cockpit, qui a mené encore une fois à deux appareils qui ont crashé et des centaines de morts. C'est grave. C'est grave aujourd'hui. Puis on n'est même pas rendu avec les véhicules autonomes, là. Fait que, mec, ça s'en vient avec ces genres de bébêtes-là qui vont encore une fois avoir des gens à l'intérieur. Puis là, parce qu'il y a un glitch logiciel qui va se manifester. Puis imaginez, on vient de jaser avec un paquet de vulnérabilités d'applications critiques, d'appareils critiques, d'infrastructures qui sont même pas capables de gérer l'essentiel présentement. C'est même pas des vies qui en dépendent. Moi, c'est certain, je vais retrouver usage de mon BC Capital.
Ben, c'est troublant, de toute façon, tu as fait mention, puis je voulais justement glisser sur le 737 après, parce qu'on en a quand même parlé à l'épisode 100 aussi. Ce qui est un peu monstrueux avec ce problème-là, c'est que Boeing a fait son propre contrôle qualité, et de toute apparence, on ne peut pas laisser dans les mains de la compagnie se vérifier elle-même, et on voit les résultats qui sont malheureux, qui ont mené à des pertes de vie dans ce cas-ci, et plus l'histoire est en train de s'ouvrir, se diffuser, plus on se rend compte à quel point il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés de plusieurs organismes de contrôle, de plusieurs éléments qui sont à l'intérieur de ça. Fait que tout ça, c'est un peu troublant. Puis le problème de Tesla et dans le fond de la voiture autonome, est-ce qu'il va falloir aussi que des entités de conformité gouvernementales devront surveiller, auditer et en profondeur tout le code qui va être dans ces machines-là?
Définitivement, je le disais l'autre jour, Nicolas, on le fait pour des lumières de Noël qu'il faut qu'ils soient approuvés par le CSA. Mais Christy, un auto, une fusée, un avion, ils n'ont même pas ce même niveau de vérification vraiment sévère. Oui, Vincent.
Écoute, petite anecdote bien drôle. Un article ce matin dans le journal, encore à propos de Tesla. C'est une voiture qui suit. Vous l'avez lu, hein? Non? C'est une voiture dont le pilote automatique était enclenché en pleine nuit, qui suivait un poids lourd très lentement, puis bon. Les gens se sont demandé qu'est-ce qui se passe là. Eh bien, pauvre monsieur, il était ivre mort au volant, en fait au volant, couché en ronflant dans sa voiture, sur le pilote automatique. Il n'y en a pas de problème. les policiers ont dû faire tout un scénario pour réveiller le gars dans sa voiture, justement, pour qu'il s'accote. Mais la voiture, elle, a rien fait. Elle conduisait tranquillement, tout allait bien. Alors voilà pour Tesla. Il propose de mettre
Normalement, son Tesla est censé détecter si tu n'as pas les mains sur le volant, par exemple. C'est pas un pilote automatique, c'est un aide à la conduite. Puis les gens sont un peu imbéciles dans ce sens-là. Puis ils pensent qu'un aide à la conduite, c'est un pilote automatique nuance. Et ça me rappelle le fameux cas. Puis j'imagine ça limite une légende urbaine du monsieur qui avait un Winnebago, qui a mis le cruise control et qui pensait que ça allait se conduire tout ça, puis il allait se coucher en arrière, puis ça l'a comme écrasé. On est à peu près dans le même genre de niveau de compréhension de la technologie de la part des gens. Donc, ça fait rire beaucoup.
Mais c'est grave parce que, je veux dire, autant l'appareil, ces voitures-là sont vendues avec l'espoir, comme le disait Vincent, que ça soit complètement autonome. Ça défie le temps dans le sens que, comme il dit, en principe, tu n'es pas supposé être couché sans être conscient de ton environnement. Mais dans la façon populaire de voir les choses. Moi, c'est comme ça que les gens le perçoivent et ils vont retenir. Mais il va falloir en tout cas, pas juste nous, là, je veux dire, l'industrie automobile, il va falloir qu'ils soient vigilants et qu'ils ramènent un peu ça en avant-plan dans la réalité des choses.
Ben, tu vois, la voiture, c'est un très bel exemple. On dirait qu'on met le produit prêt à être exploité sur le marché sans établir des règles de base, un baseline pour justement celui qui prend place à l'intérieur du véhicule. Mais bon.
Vincent, pareil comme Windows 10?
Bon, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais sérieusement, je pensais que Tesla avait mis en place un firmware. Je savais un firmware qui détectait que tu n'avais pas la main sur le volant et tu chicanais au point où que tu perdais la capacité de le mettre en pilote automatique. Mais de toute apparence, ça n'a pas l'air que tout le monde a updaté leur véhicule. Donc, ils n'ont pas toute cette patch-là encore pour s'assurer que le personne a la main sur le volant. Ah, bon, trêve de folie, on va commencer avec une dernière nouvelle.
Tu vois, un élément intéressant que tu viens de dire, Nicolas, je vais surfer là-dessus. Toi, tu parles de la bebelle, tu parles de l'équipement exploitable. À un moment donné, ça va prendre une infrastructure qui est gérée par la ville. Ça va prendre un dénominateur commun. Probablement que tes mises à jour, c'est là qu'elles vont devoir se faire centralement et non sur chacune de tes petites bebelles qui... On sait très bien, des petits comics qui vont essayer de contrer des mises à jour, vont essayer de tweaker. Quel beau terme! Tout le monde va essayer de se trouver le petit tweak sur GitHub, sur Reddit, peu importe, ça va se partager là-dessus pour justement contourner les mesures. Tandis que si tu as une infrastructure plus centrale, robuste, on parle ici de restrictions de privilèges, ben à ce moment-là, ça va peut-être avoir un modèle un petit peu plus contrôlant. Mais c'est parce qu'on joue avec des vies humaines, là. Mais bon.
Mais qu'est-ce qu'une vie humaine, Vincent, rendue en 2020?
Ouais, c'est quand on embarque dans dans une pente très glissante. Mais ouais, juste pour faire du peu sur ce que Vincent a dit, c'est mettre dans les mains d'un constructeur les mises à jour, c'est un peu un danger en soi parce que, tu sais, déjà là, je ne fais pas nécessairement confiance à tous les fournisseurs de patcher correctement les systèmes. Est-ce qu'on met ça dans les mains d'une infrastructure publique? Il y a une panoplie de questions à se poser là-dessus. C'est pas simple, très complexe. Puis on va aller vers une nouvelle, on va finir avec une nouvelle très drôle, celle de Vincent, sur un aspirateur qui utilise le juron quand il rencontre un meuble.
Écoutez, ça va être très rapide et très court. Et de toute façon, vous allez voir le lien là, quand Nicolas va diffuser à l'épisode. C'est tout simplement un YouTuber. Qui s'est acheté un iRobot, un petit aspirateur robot. Et puis, pour ceux qui n'en ont jamais eu, il y a un petit capteur, un petit coussinet, en fait, qui, lorsque ça frappe un obstacle, ben ça apaise un piton, tout simplement, puis ça ralentit l'appareil, puis il vire de bord, puis il continue sa route. Et puis, le jeune joue un peu la comédie dans cette vidéo, qui est, en passant, très drôle. S'il vous plaît, parents, pas en présence d'enfants. Parce que, disons que le langage est cru et gras. Je suis difficilement choquable, mais j'ai quand même une morale. Vous irez voir la vidéo. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Le jeune a tout simplement mis un dispositif pour utiliser une télécommande pour faire exprès, pour faire rentrer l'aspirateur dans les murs. Il a mis un petit haut-parleur Bluetooth Et puis, il a mis un petit dispositif qui a tweaké légèrement pour que chaque fois que le piton du coussinet est pressé, ben, il y a une base de données avec des points wave dedans. Et puis, ça se met à gueuler et à dire des jurons. Puis, by the way, son haut-parleur, il est petit, mais Colin qui crache parce qu'il s'en va faire un test marketing. Ça, c'est le pas de drôle. Dans un Target aux États-Unis, il s'installe dans le coin, il bisoune sa machine. Puis en passant, il dit 3-4 fois dans la vidéo qu'il a l'air de manigancer une bombe. Savez-vous quoi? C'est vrai qu'il a l'air de manigancer une bombe. Mais bon, il s'en va dans le magasin, puis des clients, du personnel, il fait crier sa machine, ça jure, c'est drôle, c'est épouvantable. Alors voilà.
C'est excellent comme nouvelle. Pour ceux que, là, on a une panoplie d'autres nouvelles, que Steve est dans son abondance, général, nous a donné, on ne les abordera pas dans l'épisode. On les met dans les show notes. Fait que si vous êtes intéressé, voyez les show notes. Il y a beaucoup d'informations qu'on met dedans. Je sais qu'il y en a qui ne savent pas que les show notes existent, parce qu'ils voient juste l'audio. Il y a des show notes qui viennent appuyer, entre autres, les nouvelles qu'on dit. Et en plus, on rajoute une panoplie d'informations supplémentaires, surtout quand que Steve est prolifique comme il l'est habituellement. Donc, consultez ça. Messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et je crois que la sécurité n'est pas proche de nous toucher.
Bonne semaine!
Mais d'ici là, profitez-en justement sécuritairement. Et vous aussi, mesdames, que vous faites partie de notre podcast, j'ai eu des commentaires comme ça qu'il y avait des dames. Et autant que des hommes présents, soyez sages, allez en paix et profitez de la technologie. Amusez-vous.